Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Très belle journée à tous. Tout de suite, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nous sommes en direct de Florence dès le début de ce journal où vous verrez que l'émotion est immense ce matin après la très probable découverte du corps de la jeune Liana, une semaine après sa disparition et avant une réunion ce matin à Matignon qui sera consacrée au dysfonctionnement judiciaire dans cette affaire. On va prendre des nouvelles des 22 Français à l'isolement depuis 3 semaines, souvenez-vous, pour avoir été cas contact de l'antivirus. L'isolement s'achève enfin pour eux. Et on prendra des nouvelles des Bleus aussi au lendemain de la défaite de 2-1 contre la Côte d'Ivoire pour le premier match de préparation mondiale.
L'affaire Liana devient aussi une affaire politique.
Oui, au lendemain de la découverte très probable du corps de la jeune fille, on va y revenir, après les révélations sur le lourd passé judiciaire du suspect dont on a parlé toute la semaine, qui n'avait jamais été entendu pour la dernière plainte pour viol dont il faisait l'objet. Sébastien Krebs, vous êtes le chef du service politique et vous êtes en direct avec nous ce matin. Il y a donc le Premier ministre Sébastien Lecornu qui bouscule son agenda. Il devait faire des annonces ce matin sur le narcotrafic. Finalement, il convoque les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour une réunion qui va avoir lieu à 10h30 tout à l'heure. Cette affaire, on le voit bien, elle devient un sujet politique.
Oui, réunion convoquée en urgence hier soir au moment où l'on apprenait la découverte du corps. Le Premier ministre, il veut d'abord envoyer un signal ce matin, montrer que cette affaire est prise très au sérieux au plus haut niveau et que les ministres concernés vont devoir rendre des comptes. Simple point d'étape, dit-on à Matignon, car en réalité, il sera sans doute encore trop tôt pour tirer tous les enseignements. Gérald Darmanin et Laurent Nunez ont chacun déclenché une enquête administrative, mais ils n'en ont pas encore les conclusions. En attendant, il faut occuper l'espace, reconnaît un conseiller au gouvernement. Comprendre, ne pas laisser le terrain aux oppositions qui se déchaînent déjà contre l'institution judiciaire. L'État a lourdement failli, écrit Jordan Bardella. Le peuple français exige des comptes. Bruno Retailleau parle lui aussi de faillite du système judiciaire, incapable de gérer le sujet des violences sexistes et sexuelles, ajoute Marine Tondelier. Gérald Darmanin, qui a dirigé l'Intérieur avant la justice, se dit terrifié par ce dysfonctionnement révélateur, dit-il, de notre mauvaise organisation, et il évoque déjà de possibles sanctions contre des magistrats si des défaillances sont identifiées.
Le temps est au deuil et au recueillement. Voilà ce qu'écrivent dans un communiqué les parents de la jeune Liana. Bon, c'est très probablement son corps qui a été retrouvé hier dans un silo agricole du Gers où avait travaillé le suspect Jérôme Barella, à une 15aine de kilomètres de Florence où vous êtes en direct ce matin. Pierre Bourgès, correspondant d'RMC dans le Sud-Ouest, c'est là qu'elle vivait, c'est là qu'elle allait à l'école. Vous êtes devant son collège ce matin et vous nous dites que tout le monde est bouleversé.
Moi, ici, les premiers élèves arrivent au collège et on peut voir que certains d'entre eux sont très touchés par les dernières nouvelles. Tous montent les escaliers pour entrer dans l'établissement tête baissée. Certains viennent chercher du réconfort dans les bras des surveillants qui les attendent à la porte depuis hier. Le personnel d'éducation du collège est lui aussi effondré, nous explique ce matin un membre du rectorat. Le choc s'étend même aux voisins du collège. Écoutez la tristesse de cette dame qui était devant l'établissement ce matin.
J'ai appris ça, j'étais juste abasourdi, quoi. Il n'y a pas de mots, c'est terrible. Je pense à la petite, je pense à ses proches. Il est évident que tout ce qu'on voit aux informations, ça interroge, quoi. Quand on est parent, en fait, on ne peut pas entendre ça. Ce n'est pas acceptable.
Vous l'avez compris ici, tout le monde est convaincu que le corps retrouvé hier est bien celui de Liana. Une autopsie et des analyses ADN sont en cours pour confirmer qu'il s'agit bien de la fillette. Une cellule psychologique est quant à elle en place encore aujourd'hui dans le collège pour soutenir ceux qui en ont besoin. Un temps d'hommage sera aussi observé dans la matinée.
Pierre Bourgès, donc en direct de Florence ce matin pour RMC. Et à l'heure où il y a donc ce débat sur le fonctionnement de la justice, ce matin, la contrôleure des lieux de privation de liberté alerte sur l'insécurité généralisée à la prison de Bordeaux-Gradignan. La surpopulation carcérale y est de 191%, c'est bien plus que la moyenne nationale. Dans des conditions gravement dégradées, dit-elle, il manque un surveillant sur 4. Tiens, on reparle ce matin, comme on l'a fait depuis le début de la semaine, des violences de samedi dernier à Paris en marge du sacre du PSG. Sur les 572 gardes à vue des mineurs en majorité, seulement 3 peines de prison ferme ont été prononcées, écrit ce matin le journal Le Figaro. Alors le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, affirme que les faits les plus graves, environ 80 dossiers, restent à juger. Le porte-parole de la chancellerie explique ce décalage là dans les chiffres par un écrémage dans les procédures, mais aussi par l'impossibilité de faire témoigner les CRS mobilisés qui viennent, dit-il, de toute la France et se dispersent rapidement après les manifestations. Alors il y en a qui viennent de passer un mois enfermés, si je puis dire. Ce sont les cas contacts de l'antavirus. Vous sonnez forcément de l'apparition de ce virus sur un bateau de croisière. C'était le mois dernier. 22 Français avaient été désignés cas contacts à ce moment-là. Et pour éviter toute propagation, eh bien, ça fait 3 semaines qu'ils sont à l'isolement, un isolement strict. C'est RMC qui vous a révélé cette information, Victor Girard. Cet isolement s'arrêtera demain.
Oui, puisque comme toutes ces personnes présentes à bord de l'un des deux avions où se trouvait une néerlandaise décédée de l'antivirus ont de nouveau été testées négatives et que la durée maximale d'incubation du virus sera atteinte demain, elles vont donc pouvoir rentrer chez elles en lien avec les agences régionales de santé. 22 cas contacts de tout âge, dont 4 adolescents tous, isolés, sous surveillance renforcée depuis plusieurs semaines dans des hôpitaux à Bordeaux, Rennes ou encore Marseille. Le tout dans des conditions particulières, des chambres à pression négative, sans fenêtres, coupées de l'extérieur. Les cas contacts ont donc dû prendre leur mal en patience. Certains ont par exemple pu télétravailler. Quant aux 4 croisiéristes, leur fin de quarantaine se termine dans un peu plus de 2 semaines. La Française contaminée, elle, toujours en réanimation, dans un état stable.
C'est à se demander à quoi servent certaines lois ou certaines mesures qui sont prises parfois. La France était censée, écoutez bien, à partir de ce week-end, eh bien mettre en place un système de transparence salariale au nom de la lutte contre les inégalités. C'était une directive européenne adoptée par plusieurs pays, dont la France, adoptée il y a 3 ans. Eh bien ça y est, on y est 3 ans après. Alors en fait, Victor Joannin, on apprend que ça se fera pas. Dites-nous pourquoi.
C'est à cause de l'instabilité politique à Bruxelles comme en France, mais aussi parce que le patronat européen y est farouchement opposé. Ces nouvelles obligations compliquées à mettre en œuvre risquent de créer des conflits, explique Éric Chevet de la Confédération des PME.
C'est la crainte que les TRH ont, effectivement. C'est que tout ça crée des tensions dans l'entreprise. Un tel s'apercevant qu'une telle a X% d'écart et demandant des justifications et entraînant des situations ambiguës dans l'entreprise.
Les syndicats poussent pour que le texte de loi soit adopté au Parlement avant l'été, à l'image de la spécialiste du sujet à la CFDT, Béatrice Lestic.
C'est important parce que les écarts de rémunération structurelle entre les femmes et les hommes ne se réduisent plus ou à la marge, et qu'il va bien falloir prendre ce sujet à bras-le-corps, à travail de valeur égale.
Aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que les hommes parce qu'elles sont plus souvent à temps partiel et sur des fonctions moins bien payées. Mais à poste équivalent, l'écart reste de 4%.
Des nouvelles des Bleus de l'équipe de France de football qui ont perdu leur premier match amical de but 1 contre la Côte d'Ivoire. C'était hier soir à Nantes où un hommage a été rendu à Didier Deschamps. On a vécu tout ça sur RMC. Valentin Jamin, les Bleus, ça y est, sont de retour à Clairefontaine.
Oui, à peine rentrés dans la nuit de Nantes, les Bleus retrouvent l'entraînement dès cet après-midi à Clairefontaine, après avoir pris la traditionnelle photo officielle de l'équipe. Didier Deschamps et son staff seront attentifs aux états de forme, alors que certains étaient sur le terrain hier après plus de 2 semaines sans jouer, avec une attention particulière pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les 2 champions d'Europe parisiens, titulaires samedi dernier en finale, sont les seuls joueurs de champ à ne pas être entrés, avec William Saliba, le défenseur d'Arsenal, gêné au dos. Ces 3-là sont espérés en forme lundi soir contre l'Irlande du Nord avec 3 entraînements de plus dans les jambes. Deschamps devrait alors aligner un 11 qui se rapproche un peu plus de son équipe type pour espérer une victoire et décoller en direction de Boston plus sereinement mercredi prochain à 6 jours d'entrée en lice contre le Sénégal.
Bon, et puis c'est la journée des demi-finales hommes à Roland-Garros, l'Allemand Zverev contre le Tchèque Mensik, puis le duel entre les Italiens Arnaldi et Coboli qu'on verra cet après-midi sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09, l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Les Français sont réticents pour l'instant à placer leur épargne dans le secteur de l'armement.
Oui, vous vous rappelez du fonds de 450 millions d'euros lancé par la Banque publique d'investissement BPI France en mars 2025. C'était destiné à permettre aux Français de financer le secteur de la défense, dont on visait évidemment la montée en puissance pour faire face aux périls internationaux. Eh bien, ça a démarré doucement, un peu plus d'un an après le démarrage, ce fonds n'a collecté que moins de 100 millions d'euros. Pourtant, le ticket d'entrée est raisonnable, 500 euros. La défense est un des secteurs les plus en croissance. La France a beaucoup de champions mondiaux dans le secteur. On rappelle qu'on est le 2e exportateur mondial d'armement. Donc tout ça rapportera, avec une quasi-certitude, 3 à 4 fois plus que le livret A. Et pourtant, les Français ne semblent pas particulièrement attirés par ces gains.
Pourquoi ils hésitent ?
Eh ben, on a une grande partie de la réponse avec le dernier baromètre de l'épargne, IFOP Alta Profit. 70% des Français ne veulent pas investir dans la défense, en grande partie pour des raisons politiques, éthiques, ou morale, et il considère que le financement de ce secteur doit uniquement relever de l'État et des impôts, et c'est une proportion qui n'a pas bougé depuis le baromètre de l'an dernier, malgré le déclenchement de la guerre en Iran. La conclusion, c'est que les Français sont pacifistes, ils veulent que leurs économies soient placées dans des entreprises qui correspondent à leurs valeurs. Ils préfèrent l'assurance vie et pas les risques. C'est un peu comme si, finalement, les Français avançaient sous les bombes avec une marguerite entre les dents, ma chère.
Votre conclusion est inouïe. Il y a peut-être aussi qu'ils ne le savent pas très bien, en fait, qu'il existe. Moi, je trouve que c'est pas du tout. On en a très peu parlé. Il y a peut-être aussi une partie
d'explication.
Moi, je trouve que parfois, on cherche des explications. Et il y a peut-être un problème d'information. Les chiffres du jour, comme chaque jour. Alors, ça monte ou ça descend?
Le gazole, on est au plus bas depuis 2 mois. 2,03 € le litre. Le sans-plomb, 95, 1,97. Au plus bas, lui, depuis un mois et demi. Pétrole et gaz, stable depuis le début de la semaine. 95 $ le baril, 48 €.
8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demanche arrive avec ses blagues à 8h30. Deux invités pour le face-à-face. Le maire de Florence, dans le Gers, c'est là où Liana a été scolarisée. C'est là qu'elle a été voir la dernière fois. Il dira toute son émotion et l'émotion de tout un village et de tout un territoire. Et puis, nous serons aussi avec la magistrate, représentante du syndicat Unité FO, Béatrice Brugière. La justice, l'État a-t-il failli lorsque l'on voit effectivement les étapes qui n'ont pas été prises au sérieux dans la ce qui aurait pu conduire à la condamnation du suspect. Et puis on poursuivra aussi notre page spéciale Coupe du Monde. Ne manquez pas à 8h50, notre envoyé spécial RMC aux États-Unis. Il est à la frontière avec le Mexique ce matin, vous l'entendrez, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Et bonjour, 8h15.
Oui, on chahutait un peu avec Géraldine, on parlait de gens à poil, parce qu'on aime bien parler de gens à poil pendant la pause. C'était du off.
Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette chronique, Apolline, je voulais revenir sur celle d'hier, parce que j'ai reçu du courrier suite à mes propos sur Thomas Pesquet. On m'a écrit, t'es jaloux. Eh ben oui, voilà, parce que cet homme a tout, il est grand, fort, beau, intelligent. Nous, à côté, on est des singes, donc évidemment en complexe. Vous avez vu qu'il a annoncé qu'il allait marcher sur la Lune. Voilà, nous on galère à faire le plein, et lui il se dit, tiens, si j'allais faire un petit tour sur la Lune, 500 000 km dans une fusée qui consomme 12 000 litres pour faire 500 mètres, le gazole est à 2,50 €, il va nous cramer 15 milliards pour aller faire un selfie avec un cratère et un solo de saxophone en apesanteur, et nous on sera devant notre télé avec nos femmes qui disent « Ah, quel homme, il est extraordinaire !» Thomas Pesquet, il veut marcher sur la Lune. Nous, on se dit que ce serait déjà bien de trouver 5 minutes pour aller marcher sur un tapis roulant chez Basic Fit. Pour pas avoir le cul d'un éléphant sur la plage cet été. Bon, ceci dit, on aura tous le même, hein, vu que personne se motive pour le perdre. On sera tous des éléphants qui font semblant de rien voir au sujet des autres. À propos d'éléphants qui voient rien, oui. La France affrontait les éléphants ivoiriens hier en football.
Très belle transition, magnifique.
Parce que vous vous disiez, mais il n'y a pas de chute dans son paragraphe d'avant, mais il y avait une transition qui était atomique, tout ça est au cordeau. Alors bref, les Bleus ont perdu contre la Côte d'Ivoire hier, 2-1, et très peu de dégâts sur les Champs-Élysées. Il faut le dire aussi, je les trouve même plus propres qu'hier. Hein, quand ils sont contents, les supporters, ils cassent. Quand ils ne sont pas contents, ils réparent, ils nettoient. Si on perd la Coupe du Monde 9-0 contre le Sénégal en phase de groupe, on va se réveiller, la scène sera propre. Ça va être
nickel.
Un match un peu spécial puisque Désiré Doué a affronté son frère, Guéla Doué. Donc il y avait les Doués sur le terrain en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu les sous-doués sur le terrain. Tous les remplaçants français qui se sont pris une peignée, bon, c'est dommage. Et finissons avec le sport. Cette semaine, c'était aussi le début des finales de la NBA, le basketball américain. Les Spurs de San Antonio ont perdu contre les New York Knicks, qui ont éliminé successivement les Big Tits de Cincinnati, les Cougar Lovers de Detroit, les Butthole Lickers de Minneapolis et l'équipe fétiche de Mathieu Béliard, les Horny Grannies de Buffalo. Qui ont fait une bonne saison hein, contre les Tremendous Cocks de Dallas. Le basket, moi j'ai jamais accroché, il faut mesurer 2m24 pour avoir le droit de jouer.
Par contre l'anglais...
L'anglais, j'aime bien. C'est chaud 2m24 pour jouer,
est-ce que ce serait pas plus simple d'interdire aux gens de plus de 2 mètres de participer, de mettre les paniers plus bas?
Mais oui, mais moi,
ce serait plus, accessible quand même.
Complètement
d'accord.
Il n'y
a pas de sport réservé aux nains, par exemple. Enfin, si, il y a Fort Boyard, mais bon, enfin, bref, tout le monde ne peut pas participer.
Le pape Léon XIV se rendra en France en septembre.
Oui, on n'en a pas encore parlé, mais le Saint-Père rencontrera Emmanuel Macron.
Et alors là, vous voyez, Saint-Père, c'est Notre-Dame. C'est moi qui l'ai reconstruite en 5 ans. Depuis, je suis très populaire auprès des Français. Hein. Je suis un peu leur Jésus.
Ils vous vénèrent ?
Non, ils veulent me crucifier.
Je suis sûr que cette visite du pape en France, c'est juste une excuse pour lui pour aller voir Céline Dion. C'est Macron va lui dire « Votre sainteté, j'ai organisé un dîner à Versailles, ce soir rien que pour vous. »
Oh Emmanuel, désolé, je suis un peu souffrant. Je vais aller me reposer.
Et le soir même, il sera à la Défense au premier rang.
Céline, on t'aime. Jésus, on s'en fout. Céline, épouse-moi.
Épouse-moi.
Je cherche ton cœur.
D'ailleurs, vous avez vu, Céline Dion annonce 10 nouveaux concerts à la Défense Arena. Il y a des concerts en cascade. Bon, c'est normal, hein, il y a des salles qui se libèrent avec les annulations de Patrick Bruel. Avec toutes les salles, elle va pouvoir s'en rajouter une bonne centaine. Alors les places sont chères. À ce prix-là, j'espère qu'il y aura des guests, qu'on aura au moins Carla Bruni. C'est pas la même puissance vocale. Quand tu penses qu'elle a pas chanté pendant 10 ans, Céline Dion, parce qu'elle était malade, je sais pas ce qu'ils ont trouvé comme traitement depuis, mais ça marche, hein. Faut en mettre dans les Red Bull. Elle avait le syndrome de la personne raide. Du coup, elle donnait plus de concerts. C'est l'inverse de Bruel. Quand il l'avait, le syndrome de la personne raide, il en a donné des concerts. C'est depuis qu'il a été diagnostiqué qu'il arrête sa carrière. C'est fou la médecine. Ça va comme ça, d'un patient à l'autre, ça varie. Allez, bon week-end.
Bon week-end. Merci beaucoup Arnaud. Il est 8h19 avant le face-à-face. Je voudrais qu'on prenne Odette au téléphone qui nous appelle du Nord. Bonjour Odette.
Bonjour Apolline, bonjour l'équipe.
Odette, comment ça va? Vous avez 65 ans, vous l'avez dit, donc je me permets de le dire. Je crois que vous êtes à la retraite et vous commandez beaucoup en ligne. Vous vouliez réagir à ce chiffre. Le nombre record de colis, de petits colis, de colis en tout genre qui désormais sont sur les routes de France.
Alors je commande moyennement, mais on est bien obligé puisque les magasins dans les centres-villes ferment. Donc il faut faire de plus en plus de kilomètres.
Vous avez les magasins qui ont fermé à côté de chez vous?
Oui.
Vous ne pouvez plus faire vos courses à pied.
Moyenne, c'est à Douai, donc il y avait des magasins d'habillement principalement,
oui,
qui ont fermé, donc on est obligé d'aller plus loin. On est obligé d'aller à Noyelles-Godault maintenant, dans un grand centre commercial.
Et donc plutôt que d'aller jusque là-bas, vous préférez parfois commander.
Commander, voilà, c'est ça.
Pour l'habillement, pourquoi? Pour le reste, pour tout?
Pour l'habillement, après j'achète des fois des livres sur le diabète, mais la dame n'est éditée que dans une grande plateforme, donc on est obligé de commander aussi.
D'accord. Donc ça, par exemple, c'est des livres que vous ne trouveriez pas, effectivement, qui seraient introuvables ailleurs.
Voilà, c'est ça. Oui, parce que la dame n'est éditée que dans une plateforme.
D'accord. Mais ça veut dire, Odette, qu'au fond, ça vous évite aussi d'avoir à sortir de chez vous? Ou est-ce que vous auriez préféré dans l'absolu? Parce qu'on avait tout à l'heure un auditeur, Mathias, qui nous disait aussi, il faut quand même voir que dans les magasins, les gens sont à peine aimables désormais. Et donc, ça faisait aussi partie. Il disait, moi, du coup, je culpabilise pas d'acheter sur Internet. Odette, est-ce que vous regrettez, vous, les magasins avec les vendeurs?
Oui, pour l'habillement, c'est mieux. En plus, on essaye, on voit plus d'affaires.
Donc maintenant, vous avez pris vos habitudes sur Internet.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Bon, écoutez, merci Odette. C'est sympa de vous entendre. Je crois que c'est la première fois que je vous accueille, Odette, au téléphone.
Oui, c'est bien la première fois.
Eh ben, soyez la bienvenue. J'imagine que vous écoutiez dans l'ombre, sans le dire. Mais ça y est, maintenant, vous avez franchi le cap du 32-16.
Bon, allumez la lumière.
Merci, Odette. Revenez quand vous voulez. Il est 8h22 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, le face-à-face, on va évidemment revenir sur ce drame, le corps d'une enfant habillée selon des habits qui lui correspondent vraisemblablement à ceux de Liana. Et on reviendra là-dessus avec d'abord le maire de Florence dans le Gers, c'est là où Liana a été scolarisée et où elle avait été vue pour la dernière fois. Le maire de Florence dira toute l'émotion et la colère, il faut bien le dire, de toute une ville et de toute une population. Béatrice Brugière sera ensuite mon invitée. Elle est magistrate. Faut-il parler de faillite, voire même de scandale de la justice et des enquêtes? Je lui pose la question dans un instant. Le face-à-face sur RMC BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV, deux invités ce matin. Après l'immense émotion et peut-être même la colère qui est en train de s'installer dans le pays après la découverte du corps de cette fillette hier, dans ce studio, Béatrice Brugière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. La question que je vous poserai évidemment dans un instant, c'est celle des défaillances dont parle le ministre de la Justice. Est-ce qu'il s'agit de défaillances? Est-ce qu'il s'agit d'une véritable faillite, voire même d'un scandale d'État, à ne pas avoir su protéger cet enfant, ses enfants, devrais-je dire, puisque de nombreuses plaintes avaient déjà été déposées contre le principal suspect. Mais je voudrais d'abord qu'on parte à Florence, puisque mon autre invité, c'est vous, Grégory Bobateau. Bonjour. Vous êtes le maire de Florence.
Bonjour.
Florence, où Liana a été scolarisée, là où elle avait été vue la dernière fois, vendredi dernier, il y a tout pile une semaine. Comment vous vivez tout cela ce matin? Comment vous administrez, comment la ville de Florence dit sa peine ce matin?
Et on se réveille ce matin, pour ceux qui ont pu dormir, de façon meurtrie, évidemment. J'ai pris la parole hier soir pour lancer un appel à la dignité. Et je réitère cela ce matin parce qu'on a une famille qui est dans le deuil. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tout cela. Il ne faut pas, même si on parle déjà de ce qui s'est passé, de la façon dont ça s'est passé, oublier que la famille est dans le deuil. Et donc, moi, toutes mes pensées vont à la famille ce matin. Vous savez, hier soir, j'ai pris la parole à 20h en me posant une question, savoir si c'était mon rôle. Si c'était le rôle du maire de la ville de prendre la parole à 20h sur tous les médias nationaux pour pallier à ce besoin d'humanité, ce devoir d'humanité qu'on ressentait dans la population et que j'ai ressenti au plus près des Florentins, pour avoir une parole humaine qui dise deux mots de compassion et de dignité à l'égard de la famille. Et écoutez, je l'ai fait parce que suite à un communiqué technique et un silence assourdissant des autorités, je pensais qu'il fallait humainement dire ce mot en direction de la famille. Et c'est ce matin, je réitère ça en avant-propos.
Monsieur le maire, quand vous dites ça, ça veut dire qu'effectivement, on entend chez vous qu'il y a un manque, qu'il y a eu un manque de parole, qu'il y a eu un manque même d'appel. Est-ce que vous-même, alors que depuis plusieurs jours, vous découvrez l'ampleur des peines qui n'ont pas été suffisamment prises au sérieux, cette fameuse phrase prononcée par la mère de Rosa, la petite fille qui a porté plainte pour viol contre le suspect numéro 1, elle a porté plainte pour viol en août dernier, depuis rien, et elle dit si la plainte avait été prise au sérieux, peut-être que la petite Liana n'aurait jamais disparu. C'est face à cela que vous dites qu'il faut garder la dignité. Pourquoi? Parce que sinon c'est la colère qui l'emporterait?
Bien sûr, il faut se garder de toute colère et il faut garder la dignité. Parce que vous savez, ce système est dénoncé par tous. Il est dénoncé par tous depuis longtemps. Et encore plus ces dernières années, encore plus ces derniers mois. Et alors là, évidemment, à l'aune de ce que l'on vient de vivre à Florence, évidemment, on ne peut que réagir. Il a été dénoncé par la voie législative. Puisque, en plus, pour illustrer cela, notre propre député du Gers, David Topiak, vous regarderez, mais en août 2025, dénoncé ça lors d'une question au gouvernement pour alerter sur le dysfonctionnement du tribunal d'Auch et particulièrement pour au niveau de la protection des enfants. Donc c'était août 2025, la question de M. Topiak. On a une dénonciation associative qui se fait, on a entendu Mouv' Enfant sur votre chaîne, on a pu lire France Victime dans Le Monde qui expliquait cette nécessité de faire quelque chose. Et puis évidemment par les victimes elles-mêmes, vous parliez de cette maman qui s'est exprimée chez vous, mais comment vous dire, Le seul vrai courage aujourd'hui, moi, si je peux m'exprimer ainsi, ce n'est pas le mien de vous parler ce matin. Vous savez, je me suis longtemps demandé si c'était ma place de prendre la parole ici. Je le fais parce que je fais mon devoir de maire. Le seul vrai courage, ce n'est pas de vous parler ce matin, ce n'est pas le vôtre de me poser des questions, ce n'est pas de savoir ce qui a été fait ou pas fait ou qui a manqué. Le vrai courage dont on parle aujourd'hui, c'est le courage des victimes, c'est le courage des enfants, c'est le courage qu'il faut à ces enfants pour pouvoir aller pousser une porte de gendarmerie, accompagner leurs parents. C'est le courage des enfants qui doivent surmonter leur honte, qui doivent surmonter leur terreur pour y aller. Et doit-on rappeler, peut-être, qu'un enfant est humain avant d'être adulte et que c'est à nous, adultes, de protéger les enfants. Quand on voit que déjà en 2023, le CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, préconisait tout un tas de choses, je crois qu'à 80 et quelques points. Et où en est-on en 2026? C'était en 2023. La question du député, c'était en 2025. Voilà les vraies questions. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a aucune polémique à avoir. Simplement, on pose les faits sur la table et on dit où on a failli. Voilà. Et je ne suis pas là pour vous dire que quelque chose a dysfonctionné au niveau départemental. C'est pas au niveau départemental, c'est pas au niveau régional, mais c'est bien au niveau national qu'il faut
cette prise de conscience. Est-ce que ça veut dire, monsieur le maire, ce matin ?
Je crois qu'il faut aller au bout.
Est-ce que ça veut dire ce matin, monsieur le maire, que, à vos yeux, c'est pas un dysfonctionnement de la justice ou un dysfonctionnement de la police ou un dysfonctionnement d'une collectivité, que c'est un dysfonctionnement de la France ?
Eh bien oui, je crois que c'est un vrai dysfonctionnement de l'État, de la France, dont il s'agit, puisque, comment vous dire, je peux illustrer ça en vous parlant de la solitude des élus, simplement, qui, vous savez, les maires, c'est le premier maillon de la chaîne. Les maires, c'est les gens, c'est le peuple, c'est le premier représentant, c'est celui qui est en contact en permanence avec la population française. Et l'État, ce sont les personnes qui sont plus haut. Et ce sont les législateurs, ce sont l'ensemble des ministres, ce sont toutes les personnes qui nous administrent, qui nous gouvernent. Et à un moment donné, on ne peut plus se contenter d'avoir des réponses partielles, des réponses étouffées, parce que tel ou tel considère que ce n'est pas sa place de prendre la parole, parce qu'il pense qu'humainement, il ferait un faux pas. Eh bien écoutez, je suis là devant vous, parce que humainement, je pense qu'il est de mon devoir de dire ces choses-là sans aucune haine, sans aucune colère, mais simplement avec toute l'humanité qui peut caractériser la fonction que j'exerce, celle de maire.
Merci beaucoup, merci Grégory Beaubateau. Vous êtes le maire de Florence. Allez-y.
Oui, voilà. Moi, je pense, vous savez que si nous n'avions pas, avec mon équipe municipale, pris le taureau par les cornes il y a quelques jours, nous serions restés seuls. Nous serions restés seuls, sans coup de fil. Et vous savez,
parce que personne ne vous avait appelé spontanément. Vous n'aviez reçu aucun appel, monsieur le maire. On sent aussi que vous vous dites au fond que vous étiez livré à vous-même.
Mais bien sûr, la seule proximité que nous avions, c'est les formidables enquêteurs, la gendarmerie qui a fait un travail formidable auprès de nous, qui a été là au jour le jour, qui a fait son travail sur un territoire qui est extrêmement difficile, extrêmement ardu en recherche. On est dans le rural, vous savez, donc on n'est pas dans des zones faciles. Et la gendarmerie a été là. Effectivement, alors écoutez. Je peux vous dire, si mon téléphone a sonné hier soir à 20h07, avec à l'autre bout du fil le cabinet de la présidence, et enfin, j'ai envie de dire enfin des mots qui m'ont semblé à la hauteur de la situation. Mais 6 jours après, 6 jours de silence, effectivement.
Merci beaucoup. Merci Grégory Beaubateau, donc maire de Florence, de nous avoir partagé effectivement cette réaction à la fois en tant que maire, mais on l'entend bien presque même en tant que citoyen français. Béatrice Brugère est avec nous dans ce studio, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Votre dernier livre, c'est Les juges ont-ils vraiment tous les droits? Mais la question évidemment que je vous pose ce matin, c'est les mots qui ont été utilisés. Le ministre de la Justice dit il y a eu dysfonctionnement. Quand on le regarde, la chronologie des plaintes et des signalements qui se sont accumulés à l'encontre du suspect Jérôme Badella, qui se retrouve aujourd'hui comme le suspect numéro un, après avoir été, et les mots du maire étaient très forts quand il dit, le courage de ses enfants qui ont été dénoncés, qui ont pris le temps d'aller porter plainte. Il y en a eu au moins une 7 ans en 2022, classée sans suite. Il y en a eu une autre en août 2025. Elle a eu rendez-vous avec les médecins qui ont constaté dans son corps les stigmates, disant qu'elle ne disait pas faux, qu'effectivement les lésions qu'elle présentait coïncidaient avec son récit de viol. C'était le 11 septembre dernier et Jérôme Barella n'avait toujours pas été interrogé.
Oui, merci beaucoup de votre invitation. Tout d'abord, je voudrais avoir un mot pour cette famille, parce que
évidemment,
ce qui vient d'être dit est très juste par ce maire. D'abord, c'est le temps du deuil aujourd'hui. Le temps des responsabilités viendra. Le temps des explications complètes viendront aussi. Aujourd'hui, ce temps, il appartient à cette famille. Et moi, j'ai vraiment une pensée pour ce qui leur arrive, parce que c'est tragique. On va aller droit au but. C'est un échec. C'est un échec collectif, c'est sûr. Il y a des enquêtes administratives en cours qui verront s'il y a eu des responsabilités individuelles. Je ne suis pas du tout la personne en charge de ça et c'est pas de ma responsabilité de parler de ça aujourd'hui. Mais on va pas se cacher, c'est un échec collectif puisque des responsabilités, on verra, puisque la personne actuellement donc qui est mis en examen, qui est pas encore mis en examen d'ailleurs, mais qui, je ne sais plus,
Jérôme Barrel, hein,
qui en tout cas présumé coupable, en vrai était déjà dans nos radars. Il y avait déjà eu des signalements. Donc il va falloir démêler.
Décembre 2017, le renseignement judiciaire établi par la gendarmerie, une femme vient signaler que sa fille a une relation inappropriée avec un homme, Jérôme Barrella. Janvier 2024, une procédure le mettant en cause après une plainte pour viol sur une fillette de 7 ans est finalement classée sans suite car insuffisamment caractérisée. Août 2025, le 22 août, dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Elle avait 11 ans, qui dénonce des faits de viol. Elle est, je le disais, soumise à un examen médico-légal qui, en effet, corrobore ses dires et dit qu'elle a vraisemblablement été violée. Le 31 mai 2026, on a à nouveau le récit qu'un signalement a été fait à l'aide sociale à l'enfance d'une jeune fille à l'encontre de ce même Jérôme Barrella.
Et sans doute d'autres choses vont arriver.
Que fallait-il de plus?
Alors moi, ce que je peux dire, en tout cas ce matin, c'est qu'on est sans doute sur des dysfonctionnements, et ça a été très bien dit par le maire avant, qui sont systémiques. Nous avons un problème en France sur la protection de l'enfance. Il va falloir que ça devienne un enjeu premier, un enjeu national. Nous avons en ce moment une commission d'enquête, vous savez, sur l'inceste, mais il y a eu des rapports sur la protection de l'enfance, sur la prise en charge de l'enfance, etc. On ne peut plus, et on ne doit pas, en tout cas moralement, se cacher sur l'excuse des moyens. Oui, on n'a pas les moyens, c'est vrai, mais ça suffit pas. C'est pas une réponse que l'on peut entendre. Et il va falloir qu'on fasse notre révolution et qu'on s'organise avec les moyens que l'on a pour faire en sorte que ces choses n'arrivent plus. Nous avons, dans cette commission d'enquête sur l'inceste, entendu toute la difficulté de ces toutes petites victimes à dénoncer les faits et sur la crédibilité qu'on apporte
mais
à leurs parents.
Je vous arrête un instant parce que Béatrice Brugière, ça, on l'a beaucoup dit.
Exactement.
Et on l'a dit par le passé. Là, je vous redonnais cet exemple. Il y a la parole, il y a
justement
les actes, il y a l'examen médical, il y a la preuve, j'allais dire matérielle, tangible. Que fallait-il de plus? C'est-à-dire que on sait que la petite fille n'a pas menti. On sait qu'elle a été victime de viol. Des médecins en attestent. Ça, c'est le 11 septembre dernier.
Bien sûr.
Et alors qu'elle a 10 ans, alors que l'homme en question est au contact de petite fille toute la journée, qu'il est lui-même père de deux filles, la police ne vient pas frapper à sa porte.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une double enquête, il y a une double inspection qui va déterminer exactement, parce que c'est son rôle, s'il y a eu des failles individuelles sur le comment ça s'est passé et s'il y a des responsabilités qui devront être tirées de ces failles. Ça appartient aux deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, dont j'ai cru comprendre qu'ils seraient initiés ce matin pour une réunion.
10h30 aujourd'hui à Matignon.
En l'état, ce que l'on peut dire de façon plus générale, c'est que je crois qu'on n'est pas organisé comme il le faut. Et ça, c'est très important. Ce que je vais vous dire, c'est que nous avons de plus en plus de profils à risque comme ces personnes. On voit de plus en plus d'ailleurs d'affaires d'agressions sexuelles sur des mineurs. Les chiffres sont assez effarants et ça, c'est la commission d'enquête aussi qui l'a révélé. Qu'est-ce que l'on doit faire à partir de là? On va pas continuer, comme vous le dites très justement, à dire les choses, à les constater, à ne rien faire et à rester les bras croisés. Il y a des modes d'organisation qui sont plus performants que d'autres. Je pense par exemple à ce qui se passe en Angleterre. Ils ont des modes d'organisation, ça s'appelle le MAPA d'ailleurs, c'est assez intéressant, où ils sont en capacité de faire un partage d'informations sur des acteurs pluridisciplinaires, services sociaux, psychiatrie, justice,
là, il y a mairie, exactement. Il y a l'aide sociale à l'enfance, qu'on a tiré,
exactement. Il y a une plainte. Sauf qu'en France, personne ne se parle. Et il n'y a pas de stratégie opérationnelle pour préserver justement de façon aussi organisée que ce qui se passe en Angleterre. On doit absolument monter en puissance sur nos organisations, c'est vraiment une réalité, sur la prise en charge des signaux d'alerte, sur le partage d'informations, pour pouvoir justement évaluer ces profils à risque et prendre des mesures de prévention.
Ça, Béatrice Brugère,
ça ne se fait pas.
Brugère, lorsque l'on voit effectivement cet enchaînement, j'ai reçu, et c'était quasi prémonitoire, mardi matin, la maman d'Elias. Elias, c'est ce garçon de 14 ans qui a été tué à la machette par deux jeunes hommes, mineurs eux aussi, déjà connus, déjà condamnés, mais dans une sorte d'à peu près, de faille, d'enchaînement de failles et d'imprécisions qui, finalement, jour après jour, ont échappé alors qu'il y avait des signalements, alors qu'il y avait des condamnations, véritablement à la condamnation ou à la sanction. Est-ce qu'on n'est pas dans cette France de l'à peu près?
En tout cas, ce qui est sûr,
les choses sont bricolées, où on se dit bah ça va tenir, et puis finalement ça tient pas.
Ce qui est sûr, c'est que comme on est, et ça c'est une réalité, hein, sur une surcharge de procédures, on est sur une culture, un peu malgré nous, du classement un peu trop facile, je vous l'accorde, et ça ne va pas. Si on a des signaux d'alerte comme ça sur des profils qui sont sériels, puisqu'on voit très bien qu'il y a eu plein de faits, il faut qu'on ait des capacités d'alerte extrêmement sérieuses, vous avez raison, on ne peut pas être dans l'à peu près. Il faut que tous ces signaux d'alerte soient répertoriés. C'est pour ça que je vous parlais de systèmes beaucoup plus performants comme en Irlande ou en Angleterre. Ils le font, pourquoi on ne le fait pas? Donc c'est possible d'avoir cette possibilité d'organiser de façon opérationnelle. Mais c'est parce qu'on le fait pas. En fait, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Je pense que on a des systèmes, on a des gens formidables. Et d'ailleurs, ça a été dit par le maire et il a raison de le dire parce que il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Les gendarmes ont fait sans doute un travail exceptionnel, y compris pour retrouver le corps. Je crois que il faut, et ça c'est vrai, il l'a dit, au niveau de l'État, que chacun prenne ses responsabilités pour avoir des systèmes mieux organisés, plus performants. Par exemple,
Faut-il que les juges rendent compte, c'est-à-dire qu'il y a à un moment une forme de sanction.
Mais vous avez raison, mais en fait c'est une responsabilité collective, tout le monde a une responsabilité dans ce système. L'État pour nous donner les moyens, l'État pour nous donner des organisations performantes et des outils performant, les individus pour être au meilleur, de leurs compétences et de leurs missions, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est systémique. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir dire un tel n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais ça ne réglera pas les comptes, le problème, parce que demain, vous aurez une autre affaire. Donc en fait, il faut qu'on ait une réflexion d'envergure pour prendre maintenant, de façon sérieuse ces problématiques qui sont extrêmement graves, de mise en danger de la population et notamment de mineurs sur lesquels on a des signaux. On n'aurait pas de signaux, je vous tiendrai pas.
Parce qu'il y a une urgence plus spéciale
Parce que c'est possible. Merci. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui le font, on peut faire mieux.
Merci beaucoup. Merci Béatrice Brugère d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Je rappelle le titre de votre livre, Les juges ont-ils vraiment tous les droits? C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, on poursuit notre exploration des États-Unis à l'heure du mondial. Nous serons avec l'envoyé spécial d'RMC à la frontière du Mexique avec des fans qui sont à fond derrière le Mexique. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC. La Coupe du Monde, ça débute dans moins d'une semaine, mais ça a déjà commencé sur RMC.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Dans ce studio, Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Dans un instant, vous allez nous donner le futur vainqueur de ce mondial. Enfin, quasi. Juste avant, on retrouve notre envoyé spécial aux États-Unis. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Apolline.
Martin, vous êtes à la frontière mexicaine, dans la ville de Laredo. Vous voyez le Mexique en face de vous, presque par la fenêtre. Le Mexique, main dans la main avec les États-Unis pour co-organiser cette Coupe du Monde. Alors que, honnêtement, les relations entre ces deux pays sont glaciales, Martin.
Ouais, et le symbole de ce fossé entre les deux pays, c'est le Rio Grande, le fleuve qui sert de frontière ici, plusieurs dizaines de mètres de large entre le côté américain à Laredo, ici, et Nuevo Laredo, juste en face de moi, de l'autre côté de la rive, côté mexicain. Fleuve sous surveillance, la police des frontières patrouille évidemment, les agents sont souvent jumelles à la main pour s'assurer que personne ne traverse illégalement, mais cette sécurité ne suffit plus à Donald Trump qui a relancé il y a quelques semaines l'idée de construire un mur entre les deux pays ici à Laredo, le long du Rio Grande. Vous savez, c'était l'une de ses lubies lors de son premier mandat, l'un des projets phares de Donald Trump. Joe Biden avait mis en pause ce mur en 2020 lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Trump est de retour désormais et avec lui donc ce projet de mur ici à Laredo. L'annonce a été faite à moins d'un mois de la Coupe du Monde et elle est restée en travers de la gorge de Lisbeth. Elle est d'origine mexicaine et quand je l'ai rencontrée, elle s'apprêtait à retourner au Mexique à pied.
Au lieu de nous rapprocher, ça nous divise. Je trouve ça mauvais, mais c'est le gouvernement américain qui décide. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Faut le respecter. Mais Donald Trump parle toujours mal des Mexicains. Ça a des conséquences pour nous. Cette personne a semé beaucoup de négativité chez les Américains. Ça me désole. D'autant que beaucoup de Mexicains ont de la famille ici. Ces murs ont séparé beaucoup de familles.
J'ai bien entendu, Martin, vous disiez qu'elle retournait au Mexique à pied. Ça se passe comment, le passage de la frontière?
Eh bien, il suffit de traverser un pont. Alors, un pont un peu spécial, un pont grillagé, très sécurisé. Évidemment, on ne traverse pas comme ça. Il y a des contrôles. Il faut avoir un titre de séjour pour entrer, par exemple, côté américain. Je le vois depuis ce matin ici. Des centaines, je pense même des milliers de personnes le traversent, ce pont, chaque jour. Beaucoup de Mexicains qui vivent au Mexique, mais qui viennent travailler côté américain.
Donc, ça promet pour la Coupe du Monde. Ils vont supporter qui?
Ben je me demandais, moi, en arrivant, s'il allait y avoir un débat dans les rues de Laredo entre Mexicains et Américains. Non, il n'y en a pas. Tout le monde va porter le maillot du Mexique pendant cette Coupe du Monde. Dans les magasins de vêtements, il y a bien quelques tenues aux couleurs des États-Unis. Mais dans celui de Sonia, par exemple, ils ne se vendent pas ces maillots américains.
Les gens viennent surtout pour acheter des t-shirts du Mexique. Les hauts, les pantalons, des casquettes aussi. Mais surtout le t-shirt et le maillot, bien sûr. Et tout ça uniquement aux couleurs du Mexique.
Parce que tous les habitants que j'ai rencontrés ici ont hâte que ça débute, cette Coupe du Monde. Qu'ils soient fans de foot ou non, tout le monde va porter du vert d'ici la fin de semaine prochaine.
Honnêtement, je ne sais pas quand les matchs commencent, mais j'en entends parler. Et bien sûr que je vais participer et porter le maillot.
J'espère pouvoir aller voir un match ou deux. On va tous montrer nos couleurs. Nous, les Mexicains, on est des vrais supporters, on fait du bruit. Vous allez voir des maillots verts partout dans le Texas. On est à fond, ça va être génial.
Je vais voir ça côté mexicain, moi. Quand on gagne, tout le monde se rassemble pour fêter ça. L'ambiance est meilleure là-bas.
Un moyen aussi pour certains habitants, ils me l'ont dit, de montrer aux États-Unis et surtout à Donald Trump que le Mexique peut faire mieux que le voisin américain.
Merci beaucoup Martin, toute la semaine vous nous avez raconté l'Amérique de Donald Trump juste avant la Coupe du Monde. Merci à vous, retour en studio.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Salva, vous êtes toujours avec nous. Ce matin, on va commencer par un pronostic.
Et un scoop qui ne va pas plaire aux supporters des Bleus. On apprend dans le journal allemand Der Spiegel qu'un économiste allemand a prédit la victoire d'une autre sélection que la France le 19 juillet prochain.
Tu bluffes, Martini.
Eh bien, apparemment, non. Selon lui, les Pays-Bas, triple finalistes, deviendront champions du monde face au Portugal. Un résultat obtenu en associant plusieurs critères, parmi lesquels prospérité, population, infrastructure sportive, place du football dans la société et classement FIFA dans lequel on retrouve les oranges au 8e rang. Ainsi, les Néerlandais et leur hymne Wilhelmus van Nassauwe seraient sur le toit du monde pour la première fois de leur histoire. Une méthode un peu plus fiable que celle de Paul Le Poulpe, puisque l'économiste avait annoncé les succès de l'Allemagne en 2014, de la France en 2018 et de l'Argentine en 2022.
Bon, très mauvais présage en effet. La France dans tout ça alors?
Alors, Apolline, eh bien, selon l'économiste, le parcours des Bleus s'arrêtera en quart, éliminé par les Pays-Bas, justement, quand le Brésil sera sorti par le Japon dès les huitièmes.
Dites-moi pas que c'est pas vrai!
Si, si, je vous assure, des conclusions à prendre avec des pincettes, cependant, l'économiste estime qu'il y a une grande part de chance, et les parieurs qui souhaiteraient suivre ces conclusions sont donc prévenus.
Et justement, Antoine, en parlant des paris sportifs, les sociétés spécialisées s'attendent à un véritable raz-de-marée durant le mondial.
Selon le Parisien, un cabinet de conseil a estimé à plus de 50 milliards d'euros les mises attendues dans le monde entier. Une hausse de 71% par rapport à l'édition 2022. En France, la barre record du milliard d'euros devrait être franchie selon l'autorité nationale des jeux qui va lancer une vaste campagne de sensibilisation destinée aux parieurs. Chiffre énorme qui s'explique aussi par le nombre de matchs disputés. 105 en 2026 contre 64 il y a 4 ans, le tournoi étant passé de 32 à 48 équipes.
Les sites de paris en ligne vont faire le plein, les diffuseurs également.
Et pour la première fois dans l'histoire d'une Coupe du Monde, de la publicité sera diffusée en plein match pendant la pause fraîcheur à la moitié de chaque période afin de lutter contre les fortes chaleurs. 3 minutes qui valent une fortune puisque les spectateurs restent plus facilement devant leur poste. Selon les offres commerciales de la régie publicitaire de M6, il en coûtera jusqu'à 425 000 euros les 20 secondes en cas de présence des Bleus en finale. La chaîne qui a cependant décidé de se limiter à une seule minute de pub dans cette fenêtre devrait donc amasser près d'1 300 000 euros par pause fraîcheur en finale. Bon, si le pronostic de notre économiste allemand ne se réalise pas.
C'est évidemment ça. Merci beaucoup. Merci Antoine Salva. La Coupe du Monde, c'est donc sur RMC, bien sûr, radio officielle. 40 personnes sur place aux États-Unis, au Mexique, au Canada, nos équipes et notamment 10 reporters sur le terrain. Dans un instant, les GG. Quel est le programme alors?
Eh bien, puisque nous avons une avocate dans les grandes gueules, nous allons revenir sur les dysfonctionnements judiciaires qui, malheureusement, ont conduit à la mort de Liana et les réunions qu'il doit y avoir aujourd'hui au gouvernement. Est-ce qu'elles vont vraiment servir à quelque chose? À tout de suite avec les grandes gueules.